Vous écoutez
RMC.
Il est 7h. Très bon réveil. Joyeux Noël à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal et du journal de Rachel Saadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. No Name 057, c'est le nom du groupe de hackers pro-russes qui se cache derrière la cyberattaque à la Poste. Des perturbations subsistent ce matin. Les syndicats agricoles passent satisfaits de leur première rencontre avec Emmanuel Macron. Ils réclament un changement de cap dans la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse. Et puis, plus que quelques heures avant le réveillon de Noël, nous serons en direct d'un marché de Strasbourg en pleine effervescence.
Et on sait ce matin qui se cache derrière la cyberattaque qui risque de gâcher Noël.
Un groupe de hackers pro-russe a revendiqué l'attaque qui perturbe ce matin encore les services de la Poste. Et Ameline Lachevin, ces cybercriminels n'en sont pas à leur coup d'essai.
Oui, No Name 057 a depuis sa création, juste après l'invasion de la Russie en Ukraine, multiplié les cyberattaques. En France, on en compte plus de 2000 en 2 ans.
Ils ont attaqué tout ce qu'ils pouvaient.
Damien Bancal est spécialiste en cyberintelligence.
On peut parler de mairie, on peut parler de département, on peut parler aussi d'entreprise. Pourquoi ils attaquent telle ou telle entreprise? L'important, c'est pour eux de faire parler d'eux.
Car ces pirates informatiques ne s'intéressent pas aux données, mais aux messages que ces attaques peuvent véhiculer. À chaque attaque, un objectif clair et assumé, servir les intérêts du Kremlin. Et pour cela, un même mode opératoire, les attaques en déni de service, aussi appelées DDoS, ultra efficaces pour saturer et paralyser un site. Alors si la revendication de No Name dans la cyberattaque contre la Poste reste à authentifier, selon une source gouvernementale, le mode opératoire rend crédible leur implication.
L'un des 4 salariés blessés lors de l'explosion à l'usine chimique d'Elkem Silicone est mort hier après-midi. L'homme de 47 ans a succombé à ses brûlures. Une enquête est toujours en cours pour tenter de déterminer les causes de cet accident qui s'est produit lundi à Saint-Fons en région lyonnaise.
RMC 7h02, les syndicats agricoles reçus hier par Emmanuel Macron.
Une première depuis le début de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse dont les agriculteurs contestent la gestion par le gouvernement. Ils sont aussi contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. Point sur lequel le Premier ministre Sébastien Lecornu a tenté de les rassurer, mais Antonin Audion, ça n'a pas suffi.
Oui, les agriculteurs veulent du concret. Les discussions avec le président de la République et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, hier, ne les ont pas convaincus. Pierre Coël est président des jeunes agriculteurs.
On a passé un peu plus d'une heure et demie, donc entendu, oui, écouté, on verra bien. Nous, la balle, on leur a transmis, elle est dans leur camp. Et maintenant, on va voir comment ils transforment l'essai.
Au menu des discussions, la dermatose nodulaire contagieuse, mais aussi et surtout le traité de libre-échange avec le Mercosur. Un non-sens pour l'agriculture française, selon les syndicats. Le Premier ministre a tenté de les rassurer.
Je veux aussi m'adresser aux agriculteurs. Votre situation exige du respect et de la détermination. Sur le traité du Mercosur, la position de la France est ferme. Aucun accord ne sera accepté s'il fragilise nos filières ou impose une concurrence déloyale. Le texte a évolué, mais le compte n'y est toujours pas.
Sébastien Lecornu a annoncé qu'il recevrait à nouveau les représentants syndicaux agricoles le 5 janvier prochain.
Et justement, les jusqu'au-boutistes, j'allais dire, la Confédération paysanne, ceux qui veulent continuer à manifester, y compris pendant Noël, seront en direct sur RMC à 7h40. C'est Stéphane Gallet, le porte-parole de la Confédération paysanne, qui répondra à mes questions.
Et on l'entendait à l'instant, le Premier ministre s'est donc exprimé hier soir depuis Matignon, juste après le vote de la loi spéciale adoptée par le Parlement. Elle permet aux administrations publiques de continuer à fonctionner malgré l'absence de budget. Il sera de nouveau discuté à partir du 8 janvier. Deuxième incident sur un Airbus A320 en moins d'une semaine. Hier, un avion de la compagnie espagnole Vueling devant relier Paris à Ibiza a atterri en urgence à l'aéroport de Clermont-Ferrand. La compagnie évoque un problème technique sans plus de précision. Les passagers ont pris un avion de remplacement jusqu'à l'île espagnole.
Il est 7h05 sur RMC. Fin de la vigilance rouge crue dans l'Hérault.
Le département rétrogradé en orange par Météo France. La décrue est en cours, mais à Sommières, dans le Gard, les habitants constatent donc les dégâts. Les dégâts, heureusement, limités à Anna Jojard.
Donc l'eau est arrivée jusqu'à là.
Philippe pointe ce qu'il reste du trait d'eau de la crue. Elle est montée à plus de 90 cm dans son restaurant.
Elle est restée là pendant un moment et à 9h ça commençait la décrue lente.
À force de racler la boue, il ne reste presque aucune trace de l'inondation, aucun dégât majeur. Philippe a connu d'autres crues dans le passé, il s'est donc adapté. Les murs sont carrelés, les cuisines installées à l'étage.
Et à Sommières, et comme on dit, on est habitué à, si on a une bonne logistique de travail et tout ça pour tout enlever, c'est bon quoi, vous pouvez retravailler dans les 2 jours qui suivent quoi.
De rue rue plus loin. Angèle, installée ici depuis 5 ans, a vécu sa première crue. L'eau est montée dans son rez-de-chaussée qui lui sert de garage. Elle vit à l'étage.
Depuis 2002, on n'a plus le droit d'habiter au rez-de-chaussée à Sommières à cause des grosses inondations.
Elle constate tout de même quelques dégâts matériels.
Les trois quarts des affaires sont à jeter. Mais après, il y a des voisins qui vont venir m'aider. Les Sommiérois, ils ont l'habitude, entre guillemets. C'est normal qu'il y ait de l'aide et c'est normal qu'il y ait des crues. Et donc, on vit avec ça.
Et ici, beaucoup d'habitants ont réussi à limiter les dégâts. Alors la plupart l'affirment, les conséquences des inondations ne viendront pas trop troubler les fêtes de fin d'année.
La Drôme et l'Ardèche passent ce matin en vigilance orange neige-verglas. L'ancien commissaire européen Thierry Breton interdit de séjour aux États-Unis. L'administration Trump l'accuse de censure au détriment des intérêts américains. Lui et quatre autres personnalités engagées pour une stricte régulation du numérique.
Le président américain mis en cause dans l'affaire Epstein.
De nouveaux documents dévoilés hier par le ministère de la Justice américain évoquent des liens, Antoine Lard, entre le pédophile et Donald Trump.
Oui, ces documents d'abord montrent que Donald Trump était proche d'Epstein, des liens bien plus étroits que ce que le président affirme. On apprend notamment qu'il a voyagé à au moins 8 reprises dans le jet privé du pédophile. Autre document très embarrassant pour Trump, cette lettre que Epstein a envoyée à un pédocriminel condamné. Il écrit « Trump partage avec nous le goût des jeunes filles ». Alors le ministère de la Justice dénonce des affirmations fausses et sensationnalistes. Pour les victimes en tout cas, comme pour les démocrates, le compte n'y est toujours pas. L'administration Trump continue de déclarer classifier les fichiers au compte-gouttes et surtout, de très nombreuses pages sont caviardées, le nom de potentiels complices d'Epstein notamment, 10 hommes mentionnés dans ces documents, mais dont l'identité n'a pas été révélée, comme si l'administration cherchait à les protéger.
Antoine Nollard, correspondant de RMC aux États-Unis. Plus que quelques heures avant de passer à table. Le réveillon de Noël, c'est ce soir et vous allez peut-être donc passer la journée en cuisine. Lucille Pascanet, on vous retrouve en direct des Halles du Marché-Gare à Strasbourg pour RMC. Et les commerçants, eux aussi, se préparent à passer une grosse journée, Lucille.
Oui, hein, ici c'est la dernière ligne droite pour ces professionnels. Exemple à la boulangerie des Halles du Marché-Gare, l'atelier 116. Elles sont 6 hein, à s'activer derrière le comptoir le 24 décembre. C'est la plus grosse journée de l'année avec Pâques. Et certains produits ne devraient pas faire long feu derrière la vitrine, à peine quelques minutes avant rupture, selon Inès Olourguet, la manager.
On va pas se mentir, le pain de mie avec le foie gras et le saumon ou autre est très apprécié. Les bûches, hein, bien sûr, 4 personnes, 6 personnes, les individuels. Et puis bon, la viennoiserie, mine de rien, pour les lendemains de fête, c'est sympa. Ça va partir très vite, on espère pas trop se tromper. Mais moi, je suis contente, j'aime bien ces journées-là où il y a du monde, on partage et donc plutôt positive.
Inès Olourguet attend donc aujourd'hui plus de 600 clients. Ils arriveront tout à l'heure dès 8h et ils auront jusqu'à 14h pour faire leurs dernières emplettes.
C'était le journal de Rachel Saadonini. Justement, Noël qui se prépare. Vous êtes nombreux à nous appeler pour témoigner, nous raconter votre Noël. Il y a Muriel d'ailleurs qui est avec nous et qui nous appelle de Fréjus. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Bonjour Muriel, joyeux Noël. Vous serez où ce soir?
Alors ce soir, on sera à la maison, mon mari et moi, tous les deux tout seuls.
Tous les deux tout seuls, mais c'est bien aussi de temps en temps, non?
Ouais, ça fait du bien de temps en temps, surtout après la fin d'année que nous venons de passer. Mmh. Et après, le lendemain, on sera chez notre fils.
Ouais.
Avec nos petits-enfants. Nous en avons 8.
8 petits-enfants, félicitations Muriel. Ça, c'est des beaux moments, des très beaux moments. Ce soir, vous allez manger quoi?
Alors ce soir, on va manger foie gras, saumon, les choses habituelles. Et puis après, on verra tous les deux. Je pense qu'on va se faire une petite fondue tous les deux.
Ah, une petite fondue. Mais alors attendez, la fondue après le foie gras et le saumon?
Ouais, un petit peu quand même.
Ah ouais, c'est intense quand même votre soirée.
C'est le jour de fête.
C'est le jour de fête, on se fait plaisir, c'est sûr. Muriel, vous travaillez aujourd'hui ou pas?
Non, je travaille pas.
Ni vous ni monsieur?
Non, monsieur sort de l'hôpital aujourd'hui.
Ah, monsieur sort. Ah, bah alors donc vous avez d'autres choses à fêter en plus ce soir?
Oui, je pense.
Le fait de vous retrouver, c'est merveilleux.
C'est ça.
Bon. Et demain, c'est votre fils qui cuisine?
Oui, notre fils travaille aujourd'hui. Comme le reportage que vous venez de voir, il travaille de bouche et c'est très intense pour lui aujourd'hui.
D'accord.
Et c'est lui qui nous reçoit chez lui et qui fera la cuisine.
Je trouve ça beau aussi d'être à un moment reçu par ses enfants. J'en suis pas encore là, mais je me dis que ça doit être quand même un moment très émouvant aussi quand c'est vos enfants qui prennent le relais, non?
Voilà, on l'a fait pendant de longues années à la maison Et là, cette fois-ci, on a des enfants qui ont des grandes maisons, on va dire, et qui peuvent nous recevoir tous ensemble.
Eh ben, c'est merveilleux. Alors, embrassez toute la famille, Muriel, et votre mari ce soir qui sort de l'hôpital. Et merci d'avoir partagé avec nous ce matin. Il est 7h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez.
Noël, c'est évidemment une fête chrétienne, mais c'est une fête pour tous les Français. 9 Français sur 10 disent que pour eux, Noël, c'est un moment essentiel et que c'est bien plus qu'une fête religieuse. Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. Vous êtes un spécialiste des religions. C'est le jour ou jamais où vous donnez la parole précisément. Parce que pour vous, le fait que ces Français disent aujourd'hui, eh bien, que quelle que soit leur religion, Noël est un moment essentiel et fédérateur, ça montre aussi que la France reste attachée à ses valeurs. Et vous nous expliquez ça dans un instant. Ou qui venait d'écrire Occident ennemi mondial numéro 1. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est le moment ou jamais de se dire joyeux Noël. Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Vous êtes théologien, historien des religions. Votre dernier livre, ça s'appelle Occident, ennemi mondial numéro 1. Et c'est aux éditions Albin Michel. Se dire joyeux Noël, pendant quelques temps, il y a une sorte de polémique. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas se dire joyeux Noël? Et ce que l'on voit, c'est que 9 Français sur 10 disent que pour eux, Noël, ça reste une fête essentiel. Une fête chrétienne, mais une fête française.
Oui, alors évidemment, vous savez, c'est chez Orwell, on veut refaire le langage, on veut imprimer un nouveau langage pour changer la mentalité des gens, mais ça marche pas. Non, les Français disent joyeux Noël, ils disent pas bonne fête, comme si cette fête, elle était anonyme. C'est leur fête, c'est une fête qui les rassemble, qui les réunit, c'est un moment de grande communion. Pourquoi ? Parce que Noël, ça correspond en fait à un immense rythme cosmique et anthropologique. C'est le moment, ce fameux solstice d'hiver, où on voyait la ténèbre, on voyait le froid gagner, la terre allait peut-être disparaître, n'est-ce pas? On s'enfonçait comme ça dans l'obscurité.
Dans la nuit.
Voilà. Et puis, d'un coup, le jour, la lumière se remet à triompher. Et donc, il y a une promesse, n'est-ce pas, de la vie du monde. Et elle est portée par quoi? Par les enfants. Or, le christianisme, c'est quoi? C'est un Dieu qui choisit d'être un enfant, désarmé, dans une grotte anonyme, dans un coin perdu de la planète. Et il est, lui, le roi du monde, cette royauté de la vie à transmettre. Et cette notion de cadeau, vous voyez, vous la retrouvez déjà dans la Rome païenne. Bon, là, on n'est pas chrétien, mais il y a cette fête du solstice, du soleil qui est invaincu. Et puis, on distribue des cadeaux aux enfants, parce que c'est eux qui portent la promesse, voilà.
La promesse, vous dites le mot promesse, le mot espoir. Alors il y a aussi un regain des religions. Il y a un regain notamment, certes, le nombre de chrétiens est pas forcément en progression, mais ceux qui sont chrétiens vont davantage à la messe. On attend davantage de monde d'ailleurs ce soir à la messe de minuit.
Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on a eu une église en France, je dirais, tout le monde était plus ou moins catholique, 80%, baptême, mariage, funérailles, tout se passait à l'église. Et puis il y a eu la sécularisation. Cette église, finalement, je dirais qu'elle a perdu de son obésité sociologique, donc elle a gagné en vitalité, en conviction. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un Français sur 10, un Français adulte sur 10, qui réellement se sent parfaitement catholique. Et là, on a quelque chose quand même de très important pour la France. Regardez l'importance de l'Église catholique dans l'éducation. La majorité des écoles dites privées sont catholiques.
Ce sont des écoles catholiques.
La santé, n'est-ce pas? Qui n'est pas allé se faire soigner un jour à Sainte-Félicité ou à je ne sais trop quelle institution, hôpital, clinique,
y compris dans les EHPAD.
Et puis, regardez, vous qui êtes journaliste, il y a aussi un monde médiatique catholique en France qui compte, qui est professionnel, un journal quotidien, etc.
Très bien.
Voilà. Donc, on voit bien que là, si vous voulez, bon, nous sommes dans ce qu'on peut appeler le catho-républicanisme, n'est-ce pas? La République elle-même.
C'est quoi le catho-républicanisme?
Regardez la Troisième République, le Panthéon, c'est une église qu'on a transformée en temple pour les grands hommes, puis c'est devenu ensuite aussi pour les grandes femmes, mais un peu plus tard. Disons le
cas, n'est-ce pas?
Bon, regardez le catéchisme républicain. Il y a même un baptême républicain que vous pouvez demander à la mairie. Je ne sais pas si votre mère saura le pratiquer, mais bon, ça existe.
Mais ça existe. Ça veut dire que on continue à s'inspirer de cela. Pour vous, il y a une forme de regain. Il y a aussi une ouverture à des traditions qui s'adaptent. Par exemple, on a vu fleurir dans les boutiques des dindes halal pour Noël, ce qui veut dire que, y compris la religion musulmane, veut fêter Noël d'une certaine manière.
Alors, vous voyez, il y a une grande fête juive qui précède un peu Noël. Hanouka, c'est la fête des Lumières. Là aussi, c'est cette notion véritablement, je dirais, de retrouver la générosité. Et c'est pour ça qu'on fait des cadeaux, n'est-ce pas ? L'univers est généreux. Nous sommes un peu des princes. Nous donnons, nous fêtons. Voilà, c'est cette idée-là, même dans un monde terrible. Hanouka, c'est une fête juive où on a commencé à faire des cadeaux aux enfants. Ça se faisait pas avant. Et oui, et les dindes halal, la vente explose. Pourquoi ? Parce que nos compatriotes musulmans, bah, ils veulent pas que leurs enfants soient moins. Ils veulent eux aussi se réunir. Ils veulent eux aussi retrouver
ce moment où on
cette
se
communion.
Réunit. Vous savez quoi, Jean-François Colosimo ? Il y a Aude qui nous appelle justement de l'Aube, la chapelle Saint-Luc. Bonjour Aude.
Bonjour.
Aude, vous vouliez témoigner. Je crois que vous avez une famille où vous vous retrouvez très nombreux et d'ailleurs de toute sensibilité.
Oui, bonjour à tout le monde. Oui, nous, c'est une grande tradition familiale, le réveillon, depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai 51 ans, donc voilà, je vous laisse imaginer. Mmh. Et nous, la tradition, c'est de se retrouver tous ensemble le soir du 24 décembre pour réveillonner, pour se retrouver tous ensemble autour d'un bon repas et échanger, rire, chanter.
Vous serez combien ?
Alors, ce soir, on est 41 adultes.
41 adultes ?
Ouais.
C'est extraordinaire. Et quand dites adulte, ça veut dire qu'il y a plein d'enfants en plus autour. On les compte même plus, quoi.
Alors là, cette année, il y en a un petit peu moins. Il y en a que trois.
Ah, il y en a
l'année
trois.
L'année dernière, on était 52, si je me trompe pas, 52.
D'accord.
Et il y avait une petite dizaine d'enfants.
D'accord. Et alors, comment ça s'organise ? Tout le monde apporte quoi dîner ?
Alors, comment ça s'organise ? On a les petits lutins du Père Noël qui sont là. On a une petite équipe de lutins qui... Alors, il y en a qui s'occupent de faire l'apéritif. Il y en a qui vont décorer le sous-sol de ma maman, où ça se passe.
D'accord. Et ça se passe chez votre mère ?
Ouais, au sous-sol depuis tant d'années. Et puis d'autres qui s'occupent de faire réchauffer.
Oui, en fait, chacun a sa tâche. Est-ce qu'il y a une notion religieuse ou
Non, c'est le plaisir de se retrouver, de finir en chantant, c'est vraiment un moment de joie, de partage, de bonheur de se retrouver tous.
Il y a un échange de cadeaux ?
Non, parce que
pour votre mère,
cadeau
peut-être
en fait, pour maman, voilà. Pour maman, mes frères, mes nièces, mais sinon, non, la famille est trop grande, sinon.
Ça en ferait beaucoup. C'est merveilleux, franchement. On est très heureux d'entendre aussi ce témoignage. Aude, merci d'avoir appelé. Quand on entend ça, effectivement, Jean-François Colosimo, c'est-à-dire ce moment familial, parce qu'on a parlé des cadeaux, on a parlé de l'espoir, mais c'est vrai que c'est un moment autour de la famille.
Oui, et donc aussi de la transmission, n'est-ce pas ? Communion, transmission, on a besoin de se rassembler. Vous voyez, quand l'auditrice dit évidemment que c'est pas de connotation religieuse, mais c'est peut-être ça la religion. C'est-à-dire que nous voyons toujours, parce qu'on est un peu les enfants des Lumières, la religion, c'est l'appareil religieux, il y a des prêtres, il y a des textes sacrés. Mais non, la religion, c'est aussi ce qui relie, n'est-ce pas ? Ce qui fait que on est ensemble. Hein, on parle sans arrêt du fameux vivre ensemble. Bah, il semble finalement que lorsqu'on laisse faire les Françaises et les Français, ils savent le faire tout seuls, sans personne, sans programme. Pourquoi ? Simplement dans cette espèce un peu de joie. Voilà. Et puis, il y a cette idée de trêve. La trêve de Noël. Ouais, c'est dans toutes les guerres, on s'arrête à Noël. N'est-ce pas ?
Arthur Chevalier, hier, nous a remonté le temps, justement, de cette expression des trêves de Noël et de ce que ça avait, par quoi ça s'était traduit, effectivement, dans l'histoire. On a même entendu hier à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen qui disait, avec un sourire en coin, et le Premier ministre qui lui répondait en disant, il y aura une trêve de Noël. Et de fait, pour la première fois hier, ils se sont tous mis d'accord sur un texte, puisque, à l'unanimité, ils ont voté cette loi spéciale. Quand vous dites, ça relie, est-ce que religion, Jean-François Colosimo, est-ce que c'est aussi parce que le reste du monde, et là reprends le titre de votre livre, Occident ennemi mondial numéro 1, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut à nouveau faire corps parce que dans un sens nous sommes désignés comme l'ennemi ?
Alors je dirais deux choses, la première c'est si vous promenez votre regard sur le monde, voyez combien d'enfants sont dans des situations apocalyptiques. Et on sent qu'il y a une injustice parce que recevoir la vie, pouvoir grandir, pouvoir simplement vivre, respirer, voilà, ça serait être un droit inaliénable. On voit qu'on en est loin. Et la deuxième chose, c'est que nous vivons même ce scandale. Vous voyez, je vous parlais de cet enfant désarmé, ce Jésus qui, encore une fois, dans est une inconnu mangeoire. De tout le monde, dans une mangeoire. Bon, aujourd'hui, on le voit, le monde va si mal qu'il y a des idéologies qui arment les enfants. Pas le phénomène des enfants soldats. C'est certainement, je dirais, un des signes les plus tragiques, finalement, de notre monde déboussolé, qu'on puisse faire d'enfants qui sont faits pour l'innocence, la joie, le bonheur, des tueurs, n'est-ce pas ? Et là, on voit que donc nous avons besoin, nous, de nous retrouver aussi, pas simplement pour nous fêter dans une espèce de béatitude consumériste, etc. Nous avons besoin de nous retrouver pour nous ressourcer, pour dire que nous avons en nous aussi, ensemble, une force pour résister au mal. Et vous rappelez-vous, la résistance, c'est ça. C'est celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Ben voilà, c'est ça, Noël.
Au fond, la lumière, effectivement, dans les ténèbres, le bien qui gagne sur le mal. C'est, on en revient à l'essentiel, mais ce soir, au fond, c'est aussi cela. Merci, Jean-François Colosimo, d'être venu passer cette aube du jour de Noël avec nous. Occident, ennemi mondial numéro 1, c'est aux éditions Albin Michel. Joyeux Noël à vous. Et Arthur Chevalier, je l'évoquais, est avec nous pour mon plus grand bonheur, comme chaque matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Ce soir, à la fin du repas de Noël, comment échapper à la célèbre bûche de Noël? Et justement, Arthur, d'où vient cette tradition de la bûche?
Eh bien déjà, la bûche n'a pas toujours été glacée. Au début, c'était un vrai morceau de bois auquel on attribuait des pouvoirs magiques. La bûche, Apolline, c'était votre porte-bonheur.
Et vous nous le racontez dans un instant, ça fait lourd comme porte-bonheur. Ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes sur RMC. Il est
7h24. RMC, Apolline Matin.
7h24, l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier, comme chaque matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Ce soir, c'est le dîner du réveillon de Noël, un repas dont la bûche est toujours un des grands classiques.
Et oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque année, on vend 8 millions de bûches de Noël. 75% de ces ventes sont évidemment réalisées dans les dernières semaines de décembre, c'est logique.
Depuis quand cette tradition?
Alors, avant d'être un dessert, la bûche de Noël, c'était une vraie bûche, si je puis dire, donc un rondin de bois, si vous préférez. Et ce rondin, on lui attribuait des pouvoirs magiques depuis le Moyen-Âge. La tradition, c'était de mettre une bûche dans la cheminée à partir du 24 décembre. Alors ça allait avec un petit rituel, le voilà ce rituel. En général, on prononçait une prière, on arrosait la bûche avec de l'alcool, donc vous pouvez mettre ce que vous avez sous la main, du vin ou de l'eau de vie. Ensuite, il faut taper sur la bûche, et quand vous tapez dessus, si elle fait beaucoup d'étincelles, eh bien ça vous porte bonheur. Quant aux cendres de cette bûche, elles sont censées protéger votre maison et pourquoi pas garantir de bonnes récoltes.
Mais ça devait brûler combien de temps cette histoire?
Alors justement, c'était très technique, c'était pas si simple parce qu'il fallait que ça dure jusqu'à l'épiphanie. Donc du 24 décembre jusqu'au 6 janvier, alors il fallait éteindre la bûche, la rallumer et évidemment, si ça ne se passait pas bien, ça vous portait malheur, ça très grave. Bref, la cérémonie de la bûche, Apolline, ça relevait finalement de la superstition et du rituel populaire plutôt que de la religion.
Jusqu'à quand ça va durer?
Alors, jusque, en gros, au 19e siècle, puisque là, évidemment, les gens se mettent à vivre de plus en plus dans des villes, donc dans des appartements. Donc, évidemment, les cheminées se font de plus en plus rares et forcément, la tradition de la bûche recule, mais elle ne disparaît pas. Elle est remplacée par quelque chose d'autre et ça sera d'abord des jouets pour enfants, des jouets en forme de bûche, figurez-vous, c'était très à la mode. On va aussi se mettre à fabriquer des très belles boîtes, des petits objets, tout ça en forme de bûche. Bref, la bûche, ça devient un objet qui symbolise Noël.
Et quand est-ce que ça devient un dessert de Noël?
Alors là, il y a débat, mais a priori, la première recette de la bûche est en 1890. On la doit à un homme qui vient de la Dordogne et qui s'appelait Pierre Lacan. Il était à la fois pâtissier et historien, et oui, ça existe. Et comme nous sommes le 24 décembre, Apolline, je vous donne sa recette originale. Donc c'est très simple, c'est un rouleau de génoise avec de la crème au beurre, au chocolat ou au café, ça marche aussi. Et le premier à commercialiser des bûches à grande échelle, c'est Antoine Charabot, un pâtissier parisien, et ça va faire fureur auprès de la haute société. Manger de la bûche devient le comble du chic, donc oui, c'est une spécialité française. Et d'ailleurs, c'est un Français qui détient le record de la bûche la plus longue du monde. Oh. Voilà, 1,5 km de long.
Quoi?
Pour lui. 1,5 km de long. Voilà. Elle a été réalisée donc par un pâtissier de l'Eure et c'était en 2014 à l'occasion du Téléthon.
Merveilleux. Et puis moi j'aime bien les petits bonhommes, vous savez qu'il y a sur la bûche.
Voilà, oh, ils sont très mignons. Les... Faut petits... pas les manger surtout.
Non.
Parce que sinon c'est tout.
On peut manger les petits champignons en meringue.
Ceux-là, ils sont
ça
bons.
On peut les manger. Joyeux Noël à vous aussi, Joyeux Arthur Noël. Chevalier, l'historien gourmet d'Apolline Matin. Il est 7h24. 17h27 d'ailleurs, pas du tout 24. Mais ça y est, c'est l'heure, parce que c'est Noël sur RMC, c'est le jour J. Si vous voulez encore pouvoir gagner des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PlayStation 5, des Switch 2 avec Micromaniazing et plein d'autres cadeaux, eh bien vous pouvez encore ouvrir une case du calendrier de l'Avent pour pouvoir gagner. Vous envoyez Noël au 7-32-16, Noël au 7-32-16. Et le gagnant sera en direct avec moi à 8h20. Donc c'est le moment de vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 7h30. On va vous donner aussi tous nos conseils pour ne pas tomber malade pendant Noël. On sera dans un instant avec un médecin, Antonin Ball. Ses conseils pour ne pas attraper la grippe, ne le manquez pas. A tout de suite, il est 7h28. C'est...
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Paris, Ibiza, avec une escale impromptue à Clermont-Ferrand. Nouvel incident sur un Airbus A320 hier, le deuxième en seulement quelques jours. Pour le budget de la France, on prend le même et on recommence. La loi spéciale qui le permet a été définitivement adoptée hier en attendant la reprise des débats début janvier. Et puis un épisode Paris-Moscou souffle sur la France et on s'apprête à vivre le Noël le plus froid jamais enregistré depuis 15 ans.
Décidément, une fin d'année très compliquée pour Airbus.
Qui vient de subir un nouvel incident sur l'un de ses A320 après un problème moteur samedi dernier sur un Paris-Ajaccio. Ce sont cette fois les passagers d'un vol Vueling entre Paris et Ibiza qui ont eu une grosse frayeur, Célestin Bougère. L'appareil a dû atterrir en urgence à Clermont-Ferrand.
Ah oui, vers 18h hier, l'avion s'est posé et s'est parqué sans aucune assistance. À l'origine, un problème technique mineur d'après l'aéroport de Clermont-Ferrand qui n'a pas précisé si c'était le moteur qui avait subi une défaillance. Les 164 passagers devaient ensuite embarquer dans un autre Airbus A320 de la compagnie Vueling qui arrivait de Barcelone. Un vol de remplacement prévu un peu avant 21h hier pour rejoindre Ibiza, leur destination finale. Samedi dernier, vous l'avez dit, Élise, un autre Airbus A320 reliant Paris à Ajaccio avait lui aussi été dérouté à Lyon cette fois. Des bouchons d'air s'étaient formés dans le moteur, ce qui avait obligé l'équipage à le couper et à atterrir en urgence.
À l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, c'est un incident extrêmement grave qui s'est déroulé en juin dernier et qui a donné lieu hier à l'ouverture d'une enquête par le parquet de Bobigny. Après la diffusion d'images sur lesquelles on voit un enfant victime d'agression antisémite, Julie Brault.
Oui, sur ces images, un homme filmant lui-même la scène prend à partie un enfant porteur d'une kippa sur la tête. « Frère, tu vas libérer la Palestine, sinon je t'arrache ton chapeau », lui dit-il à deux reprises en anglais, alors que le petit garçon est en train de jouer à la console dans un hall de l'aéroport. L'homme lui retire alors sa manette des mains, puis lui répète « Danse, cochon, danse » dans un français approximatif, avant que l'enfant ne s'exécute quelques secondes sous la pression. Cette séquence se serait déroulée au mois de juin, selon un militant pro-israélien qui l'a diffusée dimanche dernier sur ses réseaux sociaux. Dans la foulée, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour violence à caractère antisémite, confiée à la police aux frontières, désormais chargée de retrouver l'homme à l'origine de cette vidéo.
Il est 7h32 sur RMC et c'est le seul point sur lequel sénateurs et députés sont parvenus à se mettre d'accord. Le Parlement a définitivement adopté à l'unanimité le projet de loi spéciale pour permettre d'assurer le financement de l'État. Concrètement, cela veut dire que le pays va continuer de fonctionner sur le même budget que cette année en attendant la reprise des débats début janvier. Et hier soir, le Premier ministre a tenu à afficher son optimisme, Thomas Becker.
Oui, parce qu'il le répète, il faut un budget à la France. Et malgré les appels au retour du 49-3, il tient sa ligne, convaincu de pouvoir arracher un compromis à une condition.
Rester à distance des calculs partisans. Le gouvernement n'est pas là pour préparer une élection, mais pour faire avancer le pays dès maintenant. C'est un travail exigeant, parfois ingrat, mais nécessaire.
En chef d'orchestre des négociations sur le budget, il isole 5 thématiques sur lesquelles un consensus serait à portée de main. L'agriculture, les collectivités locales, le logement, les outre-mer et les investissements dans la recherche, avec toujours 7 contraintes. Respecter l'objectif de 5% du déficit. Les discussions budgétaires reprendront à l'Assemblée autour du 5 janvier, ce qui n'empêche pas le Premier ministre de détailler sa feuille de route pour les mois à venir. Décentralisation, renforcement des polices municipales ou encore lutte contre la fraude. Une façon de dire qu'il n'y a pas que le budget dans la vie politique et qu'il espère, dès le mois de janvier, tourner la page budgétaire.
7h33, les services de la Poste toujours perturbés ce matin à cause de la cyberattaque dont est victime le groupe depuis lundi. Cyberattaque revendiquée hier par un collectif de hackers pro-russes. La DGSI, les services de renseignement, sont désormais en charge de l'enquête, mais la plupart des colis devraient arriver à l'heure et la hotte du Père Noël s'annonce encore bien remplie cette année.
J'ai commandé un piano, un micro, un chevalet pour la peinture, des Lego Stitch et Angel,
des Barbie, le maquillage, la coiffure.
Nous, on a demandé des enfants gentils. Aussi, j'ai demandé au Papa Noël le permis moto, moi. Et je crois que je vais l'avoir parce que j'ai été sage cette année.
Le maillot du Barça de Lamine Yamal, numéro 10, parce que j'aime beaucoup ce joueur. J'ai commandé aussi un ballon de foot du Barça.
Des Lego, parce que j'avais envie de retourner un peu en enfance. Donc, j'ai demandé des Lego Formule 1. Eux vont pouvoir enfin souffler. Ce sont les habitants de l'Hérault dont le département est sorti ce matin de la vigilance rouge et la décrue devrait se poursuivre aujourd'hui. Mais il faudra composer avec le froid qui frappe tout le pays. Météo France a déjà placé la Drôme et l'Ardèche en alerte orange, neige et verglas. Et les températures vont fortement chuter. Charlène Villemer, on peut le dire, ce sera le Noël le plus froid jamais enregistré depuis.
Moins 0,9 degrés. C'était la température moyenne au niveau national le 25 décembre 2010, selon l'indicateur thermique national. Noël 2025 sera froid, oui, mais bien loin de ce chiffre. L'indicateur thermique est estimé à 2 degrés et une température moyenne nationale de 3 degrés. C'est entre ce soir et demain que le thermomètre va chuter avec des gelées quasi généralisées. Au réveil, il fera moins 3 degrés à Lille demain et le ressenti général, lui, pourrait approcher les moins 10 degrés. En cause, cette masse d'air froid qui arrive depuis l'Allemagne, accompagnée d'une goutte froide venue d'Europe centrale, et avec elle, l'arrivée de quelques chutes de neige jusqu'en plaine. Selon Météo France, les flocons sont attendus dès ce soir dans la vallée du Rhône. Et demain, le nord de l'Aquitaine pourrait également se couvrir d'un léger manteau neigeux.
Et voilà pour ce Noël le plus froid jamais enregistré depuis 15 ans.
Et puis le quintet, c'est à Vincennes, à 15h15.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Vous le savez, aujourd'hui, le favori, c'est le numéro 10, Je te cherche. Et l'outsider, c'est le 2, Chestnut.
Je te cherche, mais vous l'avez trouvé?
Moi, je l'ai trouvé, personnellement.
Oui, parce que c'est Madame Élise Zanjean. Depuis quelques jours maintenant. Félicitations, Élise.
Merci, très beau mariage
pour Noël. Il est 7h36 sur RMC. Un mot de la grippe. Attention, on va tous se retrouver. On va avoir tous envie de s'embrasser ce soir. Mais bonjour, docteur Antonin Ball. Vous êtes virologue, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires à Lyon. La grippe présente sur tout le territoire. Quelques conseils avant qu'on ne prenne éventuellement la route, le train pour se retrouver les uns les autres. Je vous écoute.
Oui, bonjour. Alors, premièrement, si on a des symptômes respiratoires, hein, de la toux, un nez qui coule ou de la fièvre, il faut mettre un masque. Surtout, il faut éviter d'être en contact avec les personnes à risque. Donc, on parle des personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes et des personnes ayant des comorbidités. Ces personnes-là sont à risque de développer de formes sévères en cas d'infection. Donc, c'est très important.
Donc, il faut les protéger. C'est à nous de les protéger.
Exactement, et on le protège. La première mesure, les mesures barrières, la première, c'est de mettre un masque. Ensuite, il faut bien se laver les mains, puisqu'il peut y avoir des transmissions dites manuportées, et aérer les différentes pièces des maisons.
Oui, ne pas oublier d'aérer, même s'il va faire très froid, il faut absolument ouvrir les fenêtres et faire des courants d'air aérés. Le pic, il pourrait être atteint juste après Noël, le pic de la France métropolitaine, hein, on le dit, et d'ailleurs en alerte globalement toutes les régions, hein, sur la grippe.
Oui, toutes les régions sont touchées. On s'attend au pic la semaine prochaine. Après, l'épidémie va encore durer, hein, va encore durer encore plusieurs semaines. On peut avoir aussi une recrudescence en fin de saison. La particularité de cette saison, c'est la co-circulation de différents virus grippaux, avec notamment le virus H3N2 qui prend de l'ampleur ces dernières semaines.
C'est une grippe sévère.
Alors pour l'instant, la sévérité, c'est difficile de l'estimer à ce stade, mais on sait que quand le virus H3N2 circule, on a des épidémies qui sont plus sévères.
Des épidémies plus sévères. Est-ce qu'il est encore temps de se vacciner ou est-ce que c'est trop tard?
Oui, oui, il est toujours temps de se faire vacciner. Comme je l'ai dit, une épidémie, c'est assez long. C'est en moyenne entre 10 à 12 semaines d'épidémie. Donc, il est toujours temps de se faire vacciner. On commence à développer des anticorps à peu près 10 jours après la vaccination et on est protégé au bout de 2 semaines. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir des données sur l'efficacité du vaccin, notamment contre les formes sévères. Ce sont des données anglaises. Et il y a une bonne efficacité du vaccin cette saison contre les formes sévères.
Donc ça marche, il marche bien cette année. La question aussi de la tension sur les hôpitaux, est-ce qu'on sait si ça reste fluide ?
Pour l'instant, ça reste fluide, mais on va suivre ça de près, puisque quand le virus qui circule est majoritairement du virus H3N2, on sait qu'on a un recours aux soins très important.
On parle plus du tout du Covid ?
Il y a très très peu de Covid actuellement. Il y a une circulation qui est encore observée chez les personnes de plus de 65 ans, mais ça a vraiment diminué depuis plusieurs semaines maintenant. Oui.
Merci beaucoup Antonin Ball, virologue et directeur adjoint du Centre National de Référence des Virus Respiratoires à Lyon, de nous avoir donné donc ces derniers conseils avant effectivement de se retrouver en famille. Il est 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et il y a Jean-Claude qui est avec nous pour nous partager son Noël. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Apolline, bonjour RMC.
Jean-Claude, joyeux Noël. Où serez-vous ce
Merci.
Soir ? Vous êtes dans le Pas-de-Calais, c'est ça ?
Oui, alors c'est une petite commune à côté de Boulogne-sur-Mer qui s'appelle Le Portel.
Le Portel, et vous serez autour d'un repas ?
Oui, avec les enfants, la plupart de mes enfants, j'ai 3 garçons, et il y en a qu'un simplement qui ne peut pas venir parce qu'il habite à Toulouse.
D'accord.
Et puis ma petite belle-mère, bien entendu, faut pas l'oublier.
Ah, faut pas l'oublier, donc il y aura 3 générations, 4 générations ?
On va dire 4 générations, effectivement, avec mes 2 petits-enfants sur les 4.
C'est merveilleux, et alors qui cuisine ?
C'est moi.
C'est vous, vous avez préparé quoi ?
Alors, il va y avoir du foie gras, bien entendu, bien sûr, avant l'apéritif. Après, je vais concocter des bouchées aux fruits de mer avec une sauce béchamel à l'intérieur. Ensuite, je vais faire des Saint-Jacques au safran sur un tapis de poireaux émincés marinés dans du vin blanc. Et des épices.
La petite acidité des poireaux au vin blanc avec
classique.
Le... Oh là là, ça va être très très
classique.
Bon ça. Vous avez une bûche pour le dessert ou pas, Jean-Claude ?
Oui, bûche glacée et bûche pâtissière, selon la convenance des convives. Et j'oublierai jamais de dire le plum pudding du boulonnais.
Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dis donc, racontez-moi.
Alors, j'ai envoyé des photos... pour vous le montrer, le pudding, c'est en fin de compte un mélange de fruits confits avec du sucre vergeoise. Alors, je vais certainement oublier des ingrédients, mais je rajoute de la bière brune, avec modération, bien évidemment.
Ça, c'est la version, effectivement, du boulonnais, du coup.
Voilà, c'est, en fin de compte, le pudding, c'est comme beaucoup de certains plats typiques, c'est que... Personne ne le fait de la même manière, mais ils sont tous aussi bons.
Chacun sa tradition. Voilà. Jean-Claude, merci d'avoir partagé. Je trouve ça merveilleux, en fait. On a l'impression de partager à chacun vos Noëls. On vous embrasse fort, ainsi que la petite belle-mère, vos fils et vos petits-enfants. Il est 7h42 sur RMC. Et dans un instant, cette question, est-ce qu'il y aura une trêve de Noël ou une poursuite des blocages pour les agriculteurs. Bonjour Stéphane Gallet.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la Confédération Paysanne, syndicat agricole, et vous étiez hier à l'Élysée. Vous avez rencontré Emmanuel Macron, première fois qu'il vous reçoit depuis le début de cette colère à nouveau. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Est-ce que vous allez mettre sur pause le mouvement ? Vous nous répondez dans un instant. Il est 7h42 sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, c'est enfin Noël. Il est 7h43 sur RMC. Alors première rencontre des syndicats agricoles avec Emmanuel Macron depuis le début du mouvement des agriculteurs.
Ça s'est monté, semble-t-il, de manière un peu impromptue. Hier après-midi, vous l'avez enfin rencontré, Stéphane Gallet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la Confédération Paysanne, troisième syndicat agricole, et aujourd'hui l'un des jusqu'au boutistes, si je puis me permettre, c'est-à-dire ceux qui, jusqu'au bout, considèrent qu'effectivement, il faut poursuivre la mobilisation. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a convaincu d'une forme de trêve, voire même de calmer la colère?
Bah, pas vraiment, en fait. Non. Je pense que c'était un peu l'objet du rendez-vous, c'était de calmer le feu dans les campagnes, mais on ne nous a rien à amené comme engagement politique et comme engagement structurel, en fait, pour répondre à la colère des paysans et des paysannes. Ni sur la DNC, ni sur le fond, parce que la DNC, c'est un peu la face émergée de l'iceberg. Hein. Le fond, c'est le revenu des paysans, la transmission des fermes, puis la crainte aussi des futures maladies, des futures épizooties, et aussi la crainte par rapport au réchauffement climatique. Enfin, toutes ces questions-là qui sont des questions importantes.
Et qui sont des questions structurelles pour vous.
Oui, et on n'a pas de réponse à ça. Bon, il nous a parlé évidemment du Mercosur, il nous a parlé de la PAC, mais en tout cas, il a une vision de l'agriculture qui nous inquiète, parce qu'il reste accroché à la compétitivité la mise en concurrence des paysans les uns avec les autres.
Alors, si on prend ces deux points en particulier, le Mercosur et la PAC. Sur le Mercosur, d'ailleurs, le Premier ministre lui-même l'a redit hier soir, il dit le compte n'y est pas, et donc, en l'état, il n'y a pas de signature. Est-ce que vous leur faites confiance là-dessus?
Ben, nous, on lui demande depuis le départ, il y a une opposition ferme. Hein, donc, en l'état, pour nous, ça ne marche pas. Le fait d'aller chercher des clauses de sauvegarde, des mesures miroirs, on sait que ça...
Vous voulez... Pas de Mercosur, point barre.
Oui, point barre, et on lui a répété. Il n'y a pas de en l'état, ou peut-être que c'est non, et c'est tout. Enfin, le Mercosur, c'est un accord qui est de la dérégulation du commerce. On n'est pas contre le commerce, on est contre le fait que ça soit dérégulé. De toute façon, les mesures miroirs, ils ne prennent pas en compte le coût du salaire, le coût des infrastructures, qui sont forcément différents. Il y a un différentiel de compétitivité sur les bovins de 60%, qui n'est pas lié à l'usage des pesticides ou autre, c'est lié au coût du travail, encore une fois, au différentiel d'infrastructure, au différentiel de pouvoir agronomique. Donc on ne sera jamais compétitif avec les pays du Mercosur. Mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est qu'on travaille sur notre souveraineté alimentaire. Et en tout cas, ce n'est pas en appauvrissant l'agriculture française qu'on va y arriver.
Donc pas de Mercosur, ça vous n'en voulez pas. Stéphane Gallet, sur la question de la PAC, certains, et on le sent bien, il y a une forme de division là-dessus, reprochent beaucoup de choses à l'Europe. Est-ce que vous considérez quand même qu'aujourd'hui, en termes de PAC, c'est-à-dire de politique agricole commune, la France reste quand même bénéficiaire?
Oui, alors après, il nous a fait part des craintes de baisse de budget. C'est ce qu'il dit, en tout cas, qu'il travaille sur le fait de maintenir un budget constant pour la France. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle s'il s'engage là-dessus. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de la PAC? Encore une fois, la PAC, elle va plutôt dans le sens de la compétitivité et dans le sens de l'agrandissement des fermes. On voit la disparition des fermes depuis des années et des années. Nous, on lui a dit, hein, par rapport encore une fois aux enjeux d'alimentation, de transition agroécologique et aussi de maintien des paysans dans les campagnes, qu'il faut revoir les orientations de la PAC. C'est un levier très fort. Ça ne peut pas rester, en fait, un levier pour accélérer la disparition des fermes.
Vous serez où ce soir, Stéphane Gallet?
Je serai chez moi ce soir.
Vous serez chez vous ce soir. La question, c'est aussi de savoir si il reste quand même des agriculteurs qui veulent mener la bataille jusqu'au bout. Jérôme Bail, sur la 64, dit qu'il réveillonnera sur place, sur le blocage de l'autoroute. Est-ce que vous comprenez cette démarche?
Ah ben moi, je la comprends complètement. La colère, je l'ai exprimée au président de la République. Et j'ai eu vraiment le sentiment d'une déconnexion dans notre dialogue, en fait. C'est qu'il ne le ressent pas. Ce qu'on peut vivre dans les campagnes, et je pense que c'est un peu ça le drame. Il ressent pas, en fait, la réalité des paysans, des paysannes, le désespoir aussi, parce que en fait on n'a pas envie, nous tous et toutes, de passer le Noël sur un rond-point. Si on le fait, c'est qu'il y a un vrai message de désespoir, de volonté de changement. Et j'ai vraiment l'impression qu'il a pas entendu ça, mais parce que je vous le dis, il est déconnecté, et c'est inquiétant.
Ça vous inquiète profondément quand vous dites vous serez chez vous ce soir, mais est-ce que dans les jours qui viennent, vous allez continuer à soutenir cette mobilisation? Est-ce que vous estimez que ça doit continuer à passer par des blocages?
Oui, parce que en fait, on n'obtient rien. Donc la pression, il faut qu'on continue à la mettre, en fait. Et il faut qu'il entende la voix des paysans, des paysannes. Depuis le début, ça fait 6 mois, sur la DNC en particulier, qu'on alarme sur le fait que cette stratégie-là, elle est délétère pour l'élevage, elle est délétère pour les paysans, les paysannes. Ils n'entendent pas. bah, ils ont un peu peur, là, j'ai le sentiment du fait qu'on reste dans les rues et que ça s'accélère, bah, on va rester dans les rues et on va faire en sorte que ça s'accélère. Si c'est ça le seul moyen pour se faire entendre des politiques, bah, on va continuer parce que c'est nos vies qu'on joue, en fait, c'est l'avenir de nos fermes. S'ils sont sourds à ça, tellement ils sont déconnectés de la réalité, bah, nous, on va leur faire comprendre.
Et vous avez décidé de leur faire comprendre, effectivement, sur le long terme. Merci Stéphane Gallet d'avoir pris le temps de venir dans ce studio avant de retourner chez vous et après effectivement avoir rencontré donc Emmanuel Macron hier soir. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne. Il est 7h49. Il est plus trop temps, mais quand même un peu, d'aller trouver les tout derniers cadeaux. Et vous le savez, toute la semaine, l'indispensable Louise Salé avec les cadeaux indémodables. Bonjour Louise.
Bonjour Apolline.
Ce matin, quelle est la valeur sûre que vous nous recommandez?
Alors c'est le champion du monde, hein, des jouets imbattables, incontournables, indémodables. Je veux bien sûr parler de Lego.
Lego, et donc l'imbattable Lego, ça va nous faire rêver dans un instant. Il est 7h49.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus RMC. Ce matin, Victor, vous nous parlez de la success story d'une femme de ménage.
Bonjour, Milly.
Bonjour, Madame Winchester.
Oh, allons, appelez-moi Nina. Je vous en prie, entrez.
La femme de ménage, c'est le titre du film qui sort en salle aujourd'hui. L'histoire de la jeune Milly qui débarque chez les Winchester. Une famille bien plus sombre qu'il n'y paraît.
Je vous fais faire le grand tour. Pour que vous voyez dans quoi vous mettez les pieds.
Et c'est surtout l'adaptation d'un livre, d'un best-seller que personne n'avait vu venir. Personne ne connaissait l'autrice Freda McFadden début 2023 en France. Elle est pourtant en passe de devenir la plus vendue pour la deuxième année consécutive.
J'ai un excellent pressentiment, Milly.
Moi aussi.
Ok, je vous tiens au courant.
Et avec ces 5 300 000 livres écoulés de cette saga, les producteurs aussi ont un bon pressentiment.
RMC, Apolline Matin.
Et dans un instant, Louise qui nous fait découvrir les toutes dernières tendances des Lego. Mais d'abord, on partage le réveillon de Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Pierre-Yves, artisan boulanger à Ardoye en Ardèche. J'imagine que là, vous êtes vraiment sur le pont, Pierre-Yves.
Sur le pont, en dessous, sur le côté, on ne sait même plus où on est d'ailleurs.
On ne sait même plus quelle heure il est. Il est 7h51, je vous le dis.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'effectivement, c'est une journée extrêmement chargée. Vous êtes artisan boulanger. À quoi vous vous attendez pour cette journée?
On s'attend à. C'est déjà tout programmé, donc on s'attend. On sait à quoi s'attendre, ça, c'est sûr.
Vous avez quoi là dans la boutique?
Énormément de commandes de bûches.
Bien sûr.
Ouais. Voilà, et puis bon, du pain, ouais, on a 31 sortes et variétés de pain différentes. Énormément de travail, quoi.
Les clients sont déjà là à 7h52?
Il y en a déjà qui sont passés, oui. Ça va s'étaler sur toute la journée, puis on remet ça demain, ainsi de suite.
La bûche, vous la faites comment, Pierre-Yves, chez vous?
Alors nous, on a 4 sortes de bûches pâtissières.
Ok.
4 sortes de bûches mousse et 4 sortes de bûches glacées.
Ah oui, dis donc. La tendance, c'est quoi cette année?
La pâtissière reste en tête. Hein. La bûche chocolat, évidemment. La chocolat, la vanille, part pas mal aussi. Hein.
Ok. Et vous en avez une au fruit?
Ah oui, au fruit, on a la Moulin Rouge.
La Moulin Rouge? Elle est comment, cette Moulin Rouge?
Base de fruits rouges. Je vais vous dire exactement la composition.
Allez-y.
Alors, la Moulin Rouge, c'est un biscuit madeleine, framboise, mousse passion, compoté d'ananas.
Vous m'en mettrez deux. Vous m'en mettrez deux, Pierre-Yves, de côté.
Il y a pas de problème.
Ça commence à me faire rêver. Redites-nous le nom de la boulangerie, Pierre-Yves.
Allez, c'est la boulangerie au Vieux Pétrin. Je suis à Ardoye, dans le Nord Ardèche.
Allez, au Vieux Pétrin, à Ardoye, en Ardèche. Si vous passez dans le coin, c'est la grande famille RMC. Joyeux Noël à vous, Pierre-Yves. Très belle journée. Elle va être intense et on vous le souhaite parce que c'est une belle journée aussi pour le commerce. Il est 7h53. Est-ce qu'il est encore temps? Les Lego, si vous n'avez pas mis de Lego sous le sapin, eh bien franchement, ce serait bien dommage. Les jeux de construction, rebonjour Louise.
Bonjour Apolline.
Ça c'est les indémodables absolument, ce qu'on trouve sous les sapins depuis 20 ans.
Oui absolument, je ne pouvais pas passer à côté du numéro 1 mondial du jouet, hein, le danois Lego, ces petites briques qui traînent hein, et sur lesquelles on peut se faire très mal en marchant dessus, en
les
chaussettes.
Coups de maman.
Je sens qu'il y en a quelques-unes qui traînent dans la chambre de vos enfants.
En chaussettes encore ça va, c'est pieds nus que c'est dur.
Ouais, c'est encore plus dur. Et Lego donc a pris son essor hein, juste après la seconde Seconde Guerre mondiale. Donc quand on parle d'indémodable, eh bien on tape dans le mille ces dernières années. Après le confinement, les ventes ont explosé. Pour vous donner une idée, depuis le début de cette chronique, eh bien une bonne centaine de boîtes Lego ont été vendues dans le monde.
Oui, parce que toutes les secondes, ce sont vraiment des boîtes Lego qui partent. C'est quoi la stratégie de Lego pour aussi bien marcher et se renouveler?
Alors vous avez remarqué que les Lego d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier. On ne retrouve pas tout à fait les mêmes modèles en magasin.
Mais d'ailleurs, quand on était petit, il n'y avait pas vraiment de modèles. C'est-à-dire, en fait, on achetait des boîtes avec plein de briques, mais il n'y avait pas forcément de trucs à fabriquer, quoi.
Exactement. Alors, ça existe encore, mais ce qui marche vraiment aujourd'hui, c'est vraiment ces modèles avec le mode d'emploi, la notice. On va y passer un certain nombre de temps. Et c'est parce que Lego, eh bien, s'est associé à de célèbres licences. Star Wars, Harry Potter, Formule 1, vous en connaissez d'autres.
Ouais, les Lego Ninjago, ça c'est mes voilà. Fils, ils adorent les Ninjago.
On sent le vécu. Ouais.
Il y en a plein, il y a Marvel, Disney, mais Formule 1, c'est quand même une licence qui marche très fort cette année. La voiture de course, c'est l'un des Lego les plus vendus en France à Noël, d'après le cabinet Circana. Et je vous ai rapporté donc une Mercedes de la gamme Lego Technique. Wow. Alors, c'est près de 1642 pièces. On peut y passer du temps. Et si vous voyez, il y a un petit logo 18 ans et plus. En fait, c'est vraiment un Lego pour adultes. Et c'est ça vraiment la force de Lego, c'est que c'est à la fois pour les enfants et pour les adultes, pas que des garçons, des filles aussi, en leur proposant pas seulement des voitures, on a aussi des œuvres d'art par exemple, qu'on peut reproduire, on peut aussi en réaliser soi-même. Et Jade, 9 ans, a réalisé justement un tableau dans un lieu dédié au Lego à Paris.
J'ai voulu faire un peu quelque chose qui est un peu imaginaire. Un endroit où il y a plein de fleurs. Et c'est vrai que c'est bien d'imaginer des choses, de faire des histoires avec les Lego. Tu peux construire et vraiment faire ce que tu veux.
Et Jade ne joue pas que toute seule. Elle s'amuse aussi avec sa mère Delphine.
Régulièrement, on achète des boîtes de fleurs et on fait grossir notre bouquet de fleurs Lego. Ça. Vu que j'ai pas la main verte, les Lego me sauvent pour mettre un peu de fleurs dans la maison.
Ces fleurs Lego cartonnent en tête des ventes. Je vous en ai amené une. C'est une orchidée.
Oh là là, elle est géniale.
Ouais, voilà.
C'est très jolie.
Ça. Exactement. Ça peut être
un objet déco. Quoi.
Exactement. Et le petit hic, alors quand même, c'est que les Lego sont en plastique. La marque cherche à fabriquer des briques en plastique recyclé, mais n'y arrive pas encore.
Il n'y a pas que les Lego, Louise. D'ailleurs, en termes de jeux de construction, il y a les jeux en bois.
Oui, et là, on a un français, Capla. Ça aussi, Capla. C'est historique. Ces petites planchettes de bois rectangulaires qu'on empile pour réaliser une construction. Le siège est près de Bordeaux, c'est du Pin des Landes. Victor, vous vous souvenez d'une petite construction que vous avez réalisée en Capla?
Non, j'étais trop nul, je faisais tous s'écrouler.
Ah là là, moi j'ai fait des tours, mais des tours plus hautes que moi. Et après on porte les enfants pour qu'ils aillent mettre en haut de la tour, le plus haut possible, quelques Capla.
C'est ça, exactement. Alors on en trouve surtout dans les écoles, les centres de loisirs. C'est comme ça que Capla s'est développé. En fait, c'est surtout un jeu éducatif qui est devenu une référence pour faire travailler la représentation dans l'espace, mais aussi stimuler la créativité. Et l'imagination.
Merci beaucoup Louise, très joyeux Noël à vous et à vous tous qui nous écoutez. Louise, on se retrouve demain matin 7h50 avec vos idées de cadeaux indémodables sur RMC. Il est 7h57, on se retrouve dans un instant. Évidemment le journal de 8h avec plus que quelques heures avant le réveillon de Noël, les derniers préparatifs. On sera en direct de Strasbourg sur un marché. Et puis la météo, il fait très froid pour ce Noël. Juste après le journal, il y aura l'économie. Et ce matin, c'est avec Pierre Rondeau parce que Manu Le Chypre est en train de monter.
Il est parti en vacances, oui.
Manu Le Chypre est un passionné de Lego. Pierre, les virements, attention, sont suspendus pour 4 jours à partir de ce soir.
Oui, les banques prennent aussi à leur tour des vacances. Mieux vaut prévoir.
A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.